première invitée, qui est quelqu'un de rare, car elle connaît le même succès avec ses livres qu'avec ses rôles au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Elle a joué avec les plus grands en étant à la hauteur. Son visage, sa voix et sa silhouette longiligne nous sont familiers depuis des années. Elle nous a accueillis pendant 26 ans dans sa famille formidable. Si elle est inclassable, elle est la classe personnifiée. Je suis très heureuse d'accueillir la magnifique Annie Dupéret.
Merci, écoute.
Bonjour.
Bonjour, Annie Dupéret.
Bonjour, bonjour.
Alors là, vous venez nous parler d'une série Cassandre qui va passer ce soir. Vous jouez la maman.
Oui, absolument. Oui, oui. J'aime beaucoup, en fait. C'est vrai que cette famille formidable, c'est en terminé, parce qu'il faut bien terminer un jour. Et puis
26
voilà,
ans, quand
26
même.
26 ans. Wow. 26 ans, et on a adoré ça, en complicité et tout.
C'est mon âge.
Et bah oui, non. Non.
Mais oui. Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut
et
pas
puis,
entendre.
Et puis j'aime bien faire des guests, tu vois, dans des. Ça te permet d'avoir des rôles comme ça très différents. Et je peux pas vraiment parler de mon rôle là dans le Cassandre qui va passer samedi, parce que si je parle de mon rôle, je vais tout
dévoiler,
détruire
tout
le suspense.
C'est voilà, une femme un peu autoritaire.
Non, pas exactement.
Contrôlante.
Oui, très, 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 mais bien pire que ça.
Ah. Vous aimez bien jouer les garces, Annie?
Oui, c'est les garces ou les personnages un peu torturés, pas sympathiques. C'est très drôle à faire.
Ça veut dire que vous êtes tout l'opposé dans la vie, c'est souvent le cas.
Oui, on se dit, comment est-ce que je pourrais la rendre pire?
Ah ouais.
Si je disais ça en souriant, ça serait atroce. Voilà.
Vous aimez bien faire les bitches?
Ah oui, 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 j'aime bien. J'aime
mais dans
bien.
La vie, vous êtes gentille.
Oui, très, 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 très.
Trop gentille.
Dire trop, non.
Alors
non.
Que Anne Romanoff aimerait bien jouer des femmes gentilles, vous voyez.
je voulais dire, mais
j'ai eu des cours de théâtre pour ça. Elle travaille
non,
son jeu
près,
d'acteur pour ça.
À peu près vers l'âge de 13 ans, tu sais, qui est l'âge quand même où on se rend compte à peu près de qui on est, j'ai su que j'étais irrémédiablement gentille. Voilà. Et à cette époque-là, j'entendais déjà ouais, il faut savoir montrer des dents, il faut jouer des coudes pour réussir. Enfin, et je me suis dit, mais moi, je vais en être incapable, faire que je fasse autrement.
Mais vous avez rencontré les bonnes personnes, votre carrière a été assez fluide quand même, il n'y a pas
oui,
eu de...
Oui, oui. Ah, oui, 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 j'ai eu une chance incroyable. Incroyable.
Mais vous avez eu un début de vie très difficile, Annie Dupéret.
Écoute, j'ai eu... Oui, ça a très très mal commencé à 8 ans et demi en trouvant mes parents morts, voilà. Bon, c'est le genre d'événement effectivement où on s'écrase, où on rebondit. Et en fait, à 8 ans et demi, j'étais quand même déjà un caractère assez formé. J'avais le bon âge, si j'ose dire. Donc j'ai rebondi, d'abord très violemment, dans un déni du malheur, puisque c'est comme ça, eh bien voilà, je vais vivre. Puis j'ai découvert l'art, et donc la peinture, l'écriture et tout ça, ça a commencé par là, par la peinture, l'écriture. Et c'est une, je crois que quand on a quelque chose comme ça sur la patate, c'est une très bonne manière de se sauver, de faire sa résilience, comme on dit. Par l'art.
Qu'est-ce que ça a fait de jouer 26 ans dans une famille formidable? Vous êtes rentrée dans la famille de tous les Français. Vous êtes un peu la mère idéale pour plein de Français, j'imagine.
Un petit peu. Mais non, mais c'était surtout une aventure au-delà, bien au-delà d'une série.
Une aventure humaine avec des liens très forts avec tous les gens qui ont fait la série.
Bien sûr, bien sûr.
Quand on joue 26 ans un rôle comme ça aussi fort, on ne devient pas un peu schizophrène entre la vie réelle, la vie à l'écran?
Non, non, parce qu'on pense pas à rôle. On pense pas à rôle. Si tu veux, dans Ehan, elle le sait bien. Dans ce genre de comédie, on va au plus près de l'instinct.
Ouais.
Donc, on pense style et rythme. Le style, c'était la vie en un petit peu plus rapide, comme ça, et puis avec ces sautes entre le dramatique et le comique. Et puis, on va au plus près de sa sensibilité. Moi, j'ai écrit un nombre de scènes dedans. D'ailleurs, moi qui n'arrive pas à me mettre en colère, je ne sais pas me mettre en colère. J'ai écrit toutes les scènes de colère avec le coq.
C'est vrai?
Bah oui, c'est un bonheur. Tout à coup, tout c'est ce qu'on ne sait
vie,
pas faire dans
pas,
la vie.
Vous ne mettez pas en colère, Annie Dupéret?
Je ne sais pas. Ça me fait très mal. Je ne sais pas me mettre en colère.
La dernière fois que vous êtes en colère, justement?
Ben non.
Vous êtes énervée, Annie Dupéret, c'est quand?
Non, mais quand, si par hasard je me mets en... Je crois le dernier souvenir que j'ai... Où vraiment, j'habite dans le 14e, on a dû m'entendre à l'autre côté du 14e. C'est-à-dire, tout à coup, quand je pète, je hurle jusqu'à tout Paris doit m'entendre. Quoi.
Et là, il s'était passé quoi?
Mais ça, c'était très, très, très lointain. Mais très, très lointain. Mes enfants étaient ados et j'avais un atelier dans lequel les copains de mon fils pouvaient dormir sur les canapés. Donc, il y avait eu peut-être une fête la veille et moi, j'étais un peu plus loin. Et j'arrive un matin au petit déjeuner. Et je vois tous ces gamins quand même extrêmement privilégiés en train de jouer à un jeu vidéo où il s'agissait d'écraser le plus de piétons possible.
Oui, c'est GTA. Ça,
c'est horrible.
Non, j'ai pas joué. Mais j'ai pété les plombs, quoi. Les plombs. Je crois que les voisins, le quartier a dû m'entendre, quoi. J'ai hurlé sur ces jeunes cons. Comme ça. Sur l'insensibilité que ça les entraînait, sur les conséquences, mais une horreur, quoi. Mais c'est mon dernier souvenir.
Et votre fils a dit quoi alors? Et votre fils a dit quoi?
Ben il a rien dit. Il est
c'est fait tout petit.
Il est glissé doucement sous le canapé.
C'est pas ma mère.
Il est parti pendant 6 mois caché.
Les autres se sont éclipsés.
Tu m'étonnes.
Et après vous avez plus de visite pendant 6 mois des ados.
Non,
c'est. On va pas chez ta mère. Elle est trop folle. Annie Perret, vous dites que les femmes célèbres font peur aux hommes, c'est vrai?
Oui, bien sûr.
Vous savez, Anne.
Mais pas du tout.
Bien sûr.
Je demandais.
Oui, bien sûr. Et puis, on peut être sûr que s'il y en a un qui ose vous faire la cour, c'est pas pour les bonnes raisons.
Pourquoi? C'est pour votre célébrité, vous pensez?
Oui, ça peut être un collectionneur aussi.
Ah ouais?
J'en ai rencontré.
Ah, des collectionneurs?
Oui.
Et comment vous savez que c'est un collectionneur?
Parce que ça se sait, parce qu'il n'y a, que ceux qui osent comme ça qui ont compris le truc. Ils ont compris qu'il n'y a rien de plus seul qu'une femme célèbre seule, donc on peut y aller, on rentre dedans comme dans du beurre, si j'ose dire.
Ah bon?
Mais vous avez... Alors Ben H.
Je vais arrêter les anonymes, moi.
Mais... Je dis ça uniquement parce que je sais que ça allait vous faire.
Il va sortir son couteau à tartiner.
Manu Dupéret, vous avez eu des très belles histoires d'amour dans votre vie, des grandes histoires d'amour.
Des magnifiques histoires d'amour, voilà. C'est
et donc,
ça
est-ce que c'est dur, c'est justement, quand on a eu des très belles histoires d'amour, après de
non, rendre... non, pas du tout, pas du tout. Je dis souvent, en plaisantant, la guinguette a fermé ses volets. et c'est très bien. J'ai une vieille dame, un jour, qui avait eu beaucoup d'hommes dans sa vie, une vie extrêmement riche. Et elle était seule vers la fin de sa vie. On lui a dit, mais c'est pas dur pour vous de pas avoir de compagnon? Elle disait, oh, écoutez... J'ai été très bien servi. Donc voilà, je pense que quand on a été très très bien servi, c'est pas la peine de s'accrocher à la nappe.
Ça, c'est beau ça. Hein
oui, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, vous n'allez pas le refuser.
Nul n'est à l'abri d'une bonne surprise.
Ah voilà. Donc vous
mais
êtes...
nul n'est à l'abri d'une bonne surprise.
Non, voilà. Vous êtes open, mais il faut que la barre est haute. Quoi.
Elle est nulle part. Voilà.
Je vous présente quelqu'un qui cherche l'amour, c'est Laurent Barra.
À chaque fois, on me présente comme ça. Bon.
Là, la barre est haute. Hein.
Merci.
La barre est basse.
Et ben, comme ça, je suis très bien introduit, ça fait plaisir. Ouais, Catherine Beaumont, Annie Dupéret, bonjour. Vous vous souvenez pas de moi? C'est moi? C'est Laurent Barra? Eh bien, c'est normal, notre première rencontre remonte à tellement longtemps. Septembre 1992, grande année. J'avais 13 ans et cette année-là, comme plus de 50% de mes petits camarades de classe, je fus officiellement déclaré fils de divorcé. Annie Dupéret, je vous ai aimé comme on aime une tante éloignée dès les premières diffusions de la série Une famille formidable. Parce qu'à chaque épisode, c'est un peu de nous. C'est un peu nous que vous racontiez. Divorce, mariage, famille recomposée, joie, tristesse. C'est dingue, j'ai mieux compris la séparation de mes parents en vous regardant que quand mon père a tenté de me l'expliquer en baragouinant de façon aussi claire qu'un discours de Jean Lassalle.
Mon cher fiston, la chair de ma chair, mon fils, ma bataille, l'heure est grave. Avec ta mère, j'ai connu l'arc-en-ciel, mais aujourd'hui, les nuances de gris ont laissé place aux nuances de gris. Voilà. Et oui, ma famille, comme tant d'autres, s'est reconnue pendant 26 ans dans la vôtre si formidable. 26 ans et puis s'en va. Place aux experts de Miami, aux esprits criminels, ces séries riches en tensions nerveuses, en suspense, en hémoglobine, dans lesquelles forcément on s'identifie moins. Quoique, j'ai eu ma grand-mère au téléphone avant-hier, ça fait 68 ans qu'elle est mariée à mon grand-père. Lui est toujours fou amoureux d'elle, elle peut plus le saquer. Ça pue l'homicide. Fini le temps des petits surnoms mignons. Moi, chérie, mon ange. Aujourd'hui, elle appelle Oh là là. Quand j'ai ma grand-mère au téléphone, je lui demande comment il va, papy. Elle me répond Oh là là. Comme quoi, que l'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, amoureux ou non, parfait dans l'imperfection, on fait tous un petit peu partie de votre famille formidable.
Oh, c'est joli. Merci. Merci.
Notre
notre première invitée qui est une jeune chanteuse révélation scène de l'année aux Victoires de la Musique, récompense méritée après plus de 200 concerts ces deux dernières années. Elle a aussi collaboré avec Raphaël et Nekfeu. Elle attaque une grande tournée des festivals jusqu'à la fin août avant l'Olympia les 10 et 11 septembre et vient nous présenter la nouvelle édition de son premier album Sainte Victoire, clin d'œil à la Provence où elle a grandi. Faites du bruit pour Clara Luciani.
J'aime bien quand tu dis faites du bruit comme les jeunes.
Ouais, comme les jeunes.
Faites
du bruit. Ouais. Faites du bruit, wesh.
Clara Luciani, vous avez 26 ans, vous êtes née à Martigues. Ça fait combien de temps que vous faites de la chanson finalement? Ça fait 3-4 ans?
Non, ça fait très très longtemps que je fais des chansons, depuis l'âge de 11 ans. Mais ça fait 7 ans que je suis arrivée à Paris pour faire de la
musique. À 19 ans, vous en avez marre, vous plantez tout, vous quittez Aix, c'est
oui,
ça? Et
c'est
vous
ça.
Dites, je vais à Paris.
Ouais, guitare sur le dos.
Et mais personne ne vous attendait.
Clairement pas.
Et comment ça s'est passé alors?
J'ai eu des bonnes fées. Et les premières bonnes fées, ça a été le groupe La Femme.
Ouais.
Que j'ai rencontré dès que je suis arrivée. Que
vous l'avez rencontré où?
Je les ai rencontrées à Cannes, en fait, un festival de musique dans lequel ils jouaient. Et après le concert, je suis allée voir le leader du groupe en disant que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, etc. Et il m'a donné son mail en disant si jamais tu viens à Paris un jour,
t'as l'air de vous draguer quand même.
Pas du tout.
Ah bon ?
Non, malheureusement.
Ah bon ?
Du coup, quand je suis arrivée à Paris, je me suis souvenue que j'avais son mail et je lui ai écrit. Et on a tout de suite essayé de faire des voix ensemble pour.
Ouais, non, c'était de la chance parce qu'il aurait pu.
Ouais, j'ai eu vachement de chance.
Il aurait pu juste vouloir vous.
Le rêve d'Anne.
Mais pas du tout.
Donne-moi ton mail.
Mais parce que vous êtes une très jolie fille, Clara Luciani.
Anne, merci beaucoup.
Oui, et vous êtes très grande, ça aide. Parce que du
ça
coup...
aide pas trop avec les garçons. Ça,
ah bon
ça, ouais, ça
mais ça
en
fait peur. Peut-être.
Pourquoi? Parce que vous mesurez combien?
1m82.
Du coup, vous avez des mecs que des
mecs.
Il
y a des gens qui ont fait oh.
Mais ils sont petits.
Mais voyez un peu le succès que j'ai avec les hommes.
Mais du coup, vous avez des mecs grands comme ça?
Ben là, j'ai pas de mecs du tout.
Ouais.
Quand j'en ai, souvent, ils sont plus petits que moi.
Donc, alors, une de vos premières chansons qui a marché, c'est après un gros chagrin d'amour.
Oui.
Et c'était un premier album noir, en fait, quand même.
Ouais, et en même temps, un album de.
C'était qui cet homme?
Vous en parlez beaucoup dans l'album.
Oui. C'était mon premier amour. C'était mon premier
ça a duré
amour,
combien de temps?
Un an et demi, un truc comme
un
ça.
Un an et demi.
Mais ça vous paraît être l'histoire de votre vie quand c'est la première?
Bien sûr, bien
y a
sûr.
Un truc où,
Et il vous a largué, ce salaud?
Ouais, par texto.
Par texto.
Oh là là.
Mais tu te lâches.
Comme il doit regretter.
Mais je n'en peux plus de ces mecs lâches. Vous avez retrouvé l'amour quand même.
Mais non, elle vient de te dire. Non,
c'est pas parce qu'elle est seule, mais elle a eu d'autres histoires depuis.
Alors, je le retrouve régulièrement et je le repère aussi à tous
les... Ah ouais. Je crois qu'il faudra un musicien comme ça, il serait sur scène avec
vous. Ah non, surtout pas.
Si,
mais
si.
C'est plutôt vous qui partez.
Moi, je rêve de quelqu'un qui fasse autre chose. Quoi.
Mais ouais.
Ah oui, pas de la musique.
Moi, je lui ferais pas confiance.
Un fleuriste, ce serait parfait.
Un fleuriste?
Mais non, ils ont les marèches.
Je peux en profiter pour laisser une petite annonce.
Ouais, vas-y.
Voilà, si vous êtes fleuriste et que vous entendez cette annonce, que vous êtes célibataire, que vous avez envie de passer des bons moments.
Et que vous faites au moins 1m80.
Ouais, voilà, 1m80. Et que vous êtes prêt à me faire des pancakes le dimanche matin, je suis tout à fait disponible.
Ouais! Je peux dire qu'il va y avoir du monde!
Une grande tournée des festivals. 19 juillet, Carrel, Vieille Charrue. 26 juillet, Métabièvre. 28 juillet, Lyon. 3 août, Malestroit. 6 août, Saint-Florent. 22 août, Guéret. 6 septembre, Bourgoin. Et Olympia, les 10
septembre.
Voilà,
et c'est la fin de notre émission.
Il y aura pas de Rungis, le pavillon des fleurs.
Vous adorez la scène, Clara Luciani?
Ah oui.
Oui, c'est là où vous dites que là, c'est quelque chose. Au début, vous aviez très peur. Et
ah
puis
oui,
vous...
j'étais terrorisée.
Ouais.
Et au fur et à mesure, c'est devenu essentiel, complètement essentiel.
Et là, vous dites aux Victoires de la Musique que vous aviez très peur et c'est votre sœur qui vous a calmé?
Oui.
Parce que vous essayez toutes sortes de méthodes pour vous calmer, il
n'y
a rien
déstresser.
Qui marche.
Oui, je suis terrifiée tout le temps, en fait, et notamment sur les plateaux télé.
Ça, et là, vous n'êtes pas terrifiée, là, ça va?
Bah non, on a critiqué mon ex. Je me sens bien, du coup.
On a le temps de mettre les gens à l'aise.
Jérémy Lorca, Clara Luciani, a écouté votre album et il va vous en parler.
Ah, oui, Clara Luciani, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, j'ai écouté votre album qui est très réussi, qui parle pas mal d'amour, ou plutôt de chagrin d'amour. Et c'est vrai que nous, le commun des mortels, quand on se fait larguer, en général, on déprime. Dans le meilleur des cas, on mange de la glace, on prend 15 kilos. Et dans le pire des cas, on sort en boîte, on fait n'importe quoi avec n'importe qui. Et ben vous, non.
Après une rupture, vous écrivez des chansons qui deviennent des tubes, vous faites une tournée à guichet fermé et vous obtenez une victoire de la musique. C'est ce qui s'appelle rebondir. Je ne sais pas quelle est la marque de votre trampoline, en tout cas on est nombreux à le vouloir. Hein. Notamment Léa Landau, qui me parle encore de son ex alors que c'est fini depuis 14 ans.
4 ans, ça va.
C'est jouable, c'est honnête. Alors dans votre album, il y a presque un côté thérapeutique. Vous déclarez que quand une souffrance est rendue publique, on s'en déleste un peu. Je vais écouter votre conseil. Moi, mon plus grand traumatisme, c'est que la toute première fois que je me suis fait larguer, c'était sous la douche.
Voilà. Quoi?
Ouais, c'est une vraie histoire. Hein. J'étais couvert de mousse et j'ai eu droit, j'y arriverai pas, c'est fini, il faut que tu partes. Je précise que je m'étais fait un soin pour les cheveux qu'il fallait laisser reposer 20 minutes.
Parce que t'étais pas chez toi là.
Non,
ce
non, non. Du coup, j'ai demandé, mais je peux finir le soin ou je dois me rincer? Et on m'a répondu, rince-toi. Voilà, je l'ai dit en public. Ah bah non, je le digère toujours
c'est
pas.
Génial.
C'est ouf ça. C'est tellement horrible.
Et oui. Alors, vous parlez pas que de chagrin d'amour dans votre album, vous parlez également de la place de la femme dans la société actuelle, notamment dans la chanson Drôle d'époque ou La Grenade. Vous expliquez que c'est très compliqué parce qu'on attend effectivement d'une femme qu'elle soit la mère aimante, l'épouse parfaite tout en restant très sexy. Et je comprends que ça doit être dur, franchement, à part Anne Roumanoff, je sais pas ce qui
mais
arrive.
Mais quel faillot.
Est-ce que je peux être augmentée maintenant?
Non. Okay. Toujours pas.
Clara Luciani, vous parlez également du sexisme ordinaire auquel vous avez été confrontée, on l'a dit, avec notamment des musiciens qui vous montrent comment brancher une guitare parce que vous êtes une fille. Ce qui est ridicule, on est bien d'accord. Et j'ai lu une interview où vous parliez de la galanterie. Vous dites que ça part d'une bonne intention, mais que c'est parfois un peu malvenu. Et je vous avoue qu'en tant que mec, c'est vrai qu'on sait plus trop quoi faire. La dernière fois, j'ai tenu la porte à une fille, elle trouvait ça bizarre. Elle m'a demandé si j'avais des arrière-pensées. Et on se connaît pas, Clara, mais je peux vous assurer que j'avais aucune arrière-pensée avec
ça,
elle.
Ça, c'est clair. Vraiment.
Alors parfois, si vous doutez de vous, Clara Luciani, ça vous rend encore plus attachant de vous expliquer que vous avez parié 20 euros avec un pote que vous alliez perdre aux Victoires de la musique. Et quand vous avez appris que vous deviez chanter, vous étiez en panique. Vous trouviez que c'était beaucoup de pression de tout jouer sur 3 minutes, de devoir convaincre en 3 minutes, et je suis bien d'accord parce que 3 minutes c'est le temps d'une chronique et c'est aussi mon temps record dans un domaine plus privé. Je m'égare. Dans votre chanson L'Abbé, vous parlez de votre peur d'échouer. En tout cas, moi je sais que vous n'échouerez pas, Clara Luciani, parce que la victoire, elle est en vous. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.
Merci.
Clara Luciani, on rappelle donc cet album qui est accrédité 5 victoires. Plein de dates dans tous les festivals et surtout l'Olympia, les 10 et 11 septembre. Vous êtes excité pour l'Olympia?
Hyper excité. Ouais. On a fait en premier le 12 avril.
Ouais.
C'était génial de voir voilà, son nom en lettres rouges et tout, c'est inoubliable.
Et alors là?
Et ben là, en plus, ça va être les deux dernières dates de la tournée. Donc je pense qu'il va falloir sortir les violons.
Ouais. Voilà. Vous êtes déjà en train de préparer un nouvel album, Clara Luciani?
Ouais, je travaille pas mal en ce moment sur des chansons.
Mais vous prenez jamais de vacances?
Non, pas trop.
Bon, on vous souhaite de rencontrer un gentil fleuriste.
Mmh. Ah, n'est-ce pas?
Voilà. On vous transmet les annonces.
C'est quoi votre fleur préférée?
J'aime bien les roses.
Ouais.
Je laisserai mes coordonnées si jamais.
Et notre invité qui est un des rappeurs les plus aimés de sa génération, disque de diamant, disque de platine, mais surtout un homme au cœur d'or, qu'il chante aux côtés des enfoirés, que soit juré dans The Voice. Sa bienveillance nous prouve que le talent peut rimer avec simplicité. Il vient nous présenter son nouvel album Phoenix. Soprano est avec nous ce matin.
Salut.
Bonjour. Bonjour Soprano.
Salut, ça fait du bien, un accueil comme ça, tout le monde avec le sourire et tout. Ah, ça fait super, ça fait
comme
plaisir.
Ça qu'on accueille ici.
Voilà, c'est cool.
Vous avez du mal en venant de Marseille, vous dites que le ciel est bas à Paris.
Ah ouais, là j'étais pas prêt, je me suis dit oh là là. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, le ciel me tombe sur la tête, j'ai dit qu'est-ce qui se passe.
Je t'explique, ça s'appelle du froid.
Et de la grisaille. Non mais à Marseille aussi il fait froid Soprano.
Oui, non, le Mistral il fait plus froid quand même, le Mistral il coupe un peu, il coupe la peau.
Mais le ciel est bleu.
Mais le ciel est bleu, je vois la couleur du soleil, parce qu'ici je vois pas la couleur du soleil, je sais pas s'il est vraiment jaune, ici on doit douter, mais voilà, mais c'est
et
juste
vous habitez toujours à Marseille?
Ah oui, moi je reste à Marseille.
Pas question de partir?
Non,
je
bouge pas.
Vous dit pour la promo, pour ta carrière?
Non, pour la promo, je viens, mais des fois
vous
ça
m'arrive. Vous venez en train, en avion?
Je viens en train.
En train?
Ça m'arrive de venir, je sais les gens ils rigolent à chaque fois que je leur dis ça, mais ça m'arrive de venir très tôt le matin. Et dès que j'ai fini la promo, je prends le dernier train, je rentre à Marseille. Bon, après, parce qu'aussi, il y a ma famille aussi, donc j'aime pas trop les laisser trop longtemps.
T'es en train de nous dire que tu détestes Paris, en fait.
Ah, non. Non, je n'ai qu'un problème, c'est bien sûr, c'est le club de foot, c'est tout. Après, j'adore Paris, moi, j'ai aucun problème.
Ouais, mais ici, t'as un problème avec le club de foot, t'as pas ça à Marseille, vous avez pas de club de foot là-bas.
Et ça, c'est le problème.
Ça commence.
Alors pourquoi ce titre d'album Soprano? Parce que le phénix renaît toujours de ses cendres. Le phénix, c'est comme le pigeon à Paris, il peut pas mourir. Ou alors c'est parce que vous avez la nostalgie des maisons phénix. Ou alors vous avez enregistré l'album à Phoenix, Arizona.
Non. C'est parce que je voulais. L'album d'avant, il s'appelait l'Everest. Je disais que j'essayais de grimper pour arriver le plus haut possible. Et quand l'album d'avant a tellement cartonné, mes collègues m'ont dit mais maintenant tu es en haut de l'Everest, tu fais quoi? Et pour rigoler, au début c'était une blague, j'ai dit bon, on vole, il faut voler maintenant. Et je me suis dit le phénix c'était un beau message pour dire que voilà, dans la vie on a toujours une énième chance, pas une seconde chance, une énième chance, parce que tant qu'on est encore vivant, on peut réaliser quelque chose de magnifique. Donc le phénix c'était une bonne symbolique.
Mais il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Eux, vous leur dites tout est possible n'importe quand?
Je suis la preuve que oui, on peut. Parce que tant que... Moi, je me rappelle, il y a 10, même 15 ans, je voulais m'enlever la vie, je voulais m'ôter la vie. J'étais dépressif. Pour moi, c'était impossible.
Quand vous aviez 22 ans, vous avez fait une tentative de suicide.
Voilà. Et du coup, je me regarde aujourd'hui. Je vois, j'ai une famille.
Une femme, du succès.
Je remplis des stades, qui l'auraient
dit. Stade Vélodrome à Marseille.
Qu'est-ce qui vous a sauvé la vie, alors?
En fait, c'était le fait de me... C'est l'égoïsme. Justement, on me posait une question sur Internet. Il y avait quelqu'un qui me disait que une amie à cette personne ne pensait qu'à s'enlever la vie parce qu'elle trouvait que ça comme solution. Et le truc que je lui ai dit, faut lui dire qu'à un moment donné, faut qu'elle comprenne qu'elle fait du mal à ceux qui s'inquiètent pour... Moi, je me rappelle, mes parents, surtout ma sœur, elle avait écouté une chanson à moi qui s'appelait « Comme une bouteille à la mer » où je disais que j'étais pas bien. Les gens du rap étaient là. « Waouh, quelle plume extraordinaire. Cette chanson est profonde, magnifique, un classique. » Tout le monde sortait ça. Et ma sœur qui arrive, elle me dit « Je ne veux plus l'écouter, cette chanson. » Sortie de la chambre en larmes. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je suis parti la voir. Elle me dit « Ça veut dire que nous, on est là, on ne sert à rien. » Nous, ça veut dire que tu es malheureux alors que nous, on est là tout le temps avec toi. On rigole ensemble et tout. Et tu dis des trucs comme ça. Et ça a été mon premier déclic où je me suis dit, c'est peut-être un truc égoïste qui... Bien sûr, on a tous un mal-être, on a tous un peu de mélancolie. Mais on n'est pas conscient du mal qu'on fait autour de nous en disant qu'on n'est pas bien. Voilà. Donc du coup, à cette personne-là, je lui ai dit, si toi, tu t'inquiètes, ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire qu'elle te fait du mal. Donc peut-être qu'il faudrait lui préciser ça. Voilà, c'est juste...
Et ça vous a soigné, votre mélancolie?
Moi, ça m'a soigné. Après, je suis parti chez les mélancoliques anonymes.
Alors, Soprano vient nous parler de son album Phoenix. Vous partez en tournée. 400 000 places déjà vendues.
Incroyable.
C'est un truc de fou, ça. 400 000 places, un stade Vélodrome, le 11 octobre. Du coup, vous en lancez un deuxième?
Ouais, c'est... Même moi, je n'ai pas les mots, je ne sais pas.
C'est Johnny Hallyday, le gars, en fait.
Ouais. En moins optique 2000, mais oui, je sais pas quoi dire.
Vous imaginez quand vous étiez petit garçon dans les quartiers nord de Marseille avec votre père sur les bateaux, votre mère femme de ménage, que vous connaîtriez tout ça?
Non, je m'imaginais pas. Moi, je rêvais de faire des concerts, mais voilà, quand je faisais un concert dans mon quartier ou dans la MJC, la maison pour tous à côté, c'était extraordinaire pour nous.
Par contre, dès le départ, vous avez pris ce métier très au sérieux, parce que quand vous avez 16 ans, vous fondez votre premier groupe, et il y a votre cousin, il vient pas en répétition parce qu'il va jouer au foot, et vous allez le chercher sur le terrain de foot, et vous le pourrissez.
Mais oui, si on fait quelque chose, il faut le faire bien. On faisait des répétitions, je travaillais toute la nuit. Bon, après, moi, j'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours été un passionné de musique. Moi, c'est faire de la musique, qu'importe le style, mais faire de la musique, c'est important. Donc, quand il y avait mon cousin, qui s'appelle Alonso, qui est super connu aujourd'hui, des psychiatres de la rime, je le voyais... une demi-heure de retard. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est là, j'ai travaillé une chanson, on va travailler ça, on va répéter et tout. J'ai préparé la chambre, la salle. J'ai profité que mes parents étaient partis pour pouvoir répéter. Et lui, il n'est pas là. Je descends et je le vois en train de jouer au foot, un gros tournoi. Il avait un maillot du Brésil que son frère lui avait offert. Il était content et tout. Je suis descendu dans le terrain, j'ai interrompu le match. J'ai dit, on arrête le match. Toi, on a répétition. Il m'a regardé, mais pourquoi? J'ai dit, parce qu'on a répétition, on a une carrière à faire. Il m'a dit, mais j'ai peut-être une carrière dans le foot. J'ai dit, non. Et du coup, tous les jours aujourd'hui, il me remercie. Sa mère aussi me remercie. Et c'est vrai que j'étais très sérieux.
Votre père, vous dites qu'il n'était jamais là parce qu'il travaillait sur les bateaux.
Oui.
Et vous croyez au début, quand vous étiez petit, qu'il construisait des bateaux alors qu'en fait il était homme à tout faire.
Mais oui, moi je croyais que c'était le capitaine. Moi je croyais que c'était le capitaine, j'imaginais que c'était lui. Après, moi j'étais petit, hein. J'imaginais qu'il avait le volant du bateau, que c'était lui qui donnait des ordres. Mais en fait, non, c'était pas lui qui donnait les ordres. Et c'est après que j'ai compris que c'était l'homme à tout faire, c'est lui qui rangeait les chambres, c'est lui qui faisait à manger.
Et vous-même, après, vous avez été orienté en techno et vous n'avez pas osé dire à votre mère que... Ouais. Qu'est-ce que vous avez raconté à votre mère?
Alors, je rentre en quatrième technologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la quatrième. Il y avait quatrième insertion et quatrième technologie. Bon, j'avoue, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis là-dedans. Parce que je trouvais que je n'étais pas un mauvais élève, mais bon, peut-être.
Ben toi, non, mais oui.
Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, je ne savais pas comment dire à ma mère que qu'on m'avait pris en quatrième techno. Je suis parti voir ma mère, j'ai dit « Maman, je passe. » « Ah, c'est bien. » Et en plus, j'ai rajouté le « en plus », c'est important dans la suite de l'histoire. « En plus, je suis en quatrième technologie. » Il y a un bug, j'ai dit « Je vais construire des avions. » Ma mère, elle me dit « Comment ?»« Oui, technologie, on va construire des avions, des vaisseaux. » À la fin, je vais finir à la NASA. Ma mère, elle était là, wow, elle a appelé toute la famille, on a fait une fête. Mon fils va devenir technicien, c'était... Après, quand elle a compris que j'ai réappris l'alphabet, je crois qu'elle a compris plus tard, mais bon. Mais
et ouais. Vous dites aussi que quand vous avez raté votre bac la première fois, votre père vous a pourri. Il a dit « J'ai sacrifié ma vie, ouais, ma famille.
Ouais. » C'était dur, ça. Ça c'était
vous
moins
étiez l'aîné, en plus. De... Ouais,
c'était beaucoup de pression sur vos épaules.
Voilà, dans sa tête, c'était... En fait, on ne fait pas gaffe, mais quand on est fils d'immigrés, on n'est pas conscient de la chance qu'on a d'avoir des parents qui ont tout quitté, qui ont eu le courage de tout quitter pour essayer de nous installer dans un endroit où, loin de la guerre, loin de la famille.
Vous veniez des Comores,
c'est ça ? Voilà, mes parents venaient des Comores et mon père, il croyait que j'étais conscient de tout ça, mais j'étais pas conscient de tout ça. Lui, il est venu quand j'ai raté le bac, il était choqué.
Il avait les larmes aux yeux.
Il avait les larmes aux yeux, il me regarde et me dit « Mais moi, je n'ai pas vu mon père mourir, je n'ai pas vu ma mère mourir. À 15 ans, je suis parti, je ne vous ai pas vu grandir. Et toi, tu dis que dans les chansons que tu es un bandit, le son des bandits, et en plus, tu rates le bac. » Il ne comprenait pas.
Et aujourd'hui, il est fier de vous, j'imagine.
Oui, aujourd'hui, il comprend mieux. Je suis même devenu son père. Je suis un peu son père. C'est moi qui est plus en train de lui dire « Non, il ne faut pas faire comme ça. On fait comme ça. » Oui, on fait comme ça.
Là, du coup, vous avez acheté une maison aux Comores pour vos parents ?
Oui, ils ont une grande maison. Là-bas, ils sont tranquilles. Ils s'occupent de ma grand-mère et de tous mes neveux nièces. Il y en a une centaine. Ils sont tous là-bas et ils s'occupent d'eux. Et ils sont tranquilles. J'espère qu'ils sont heureux.
Vous avez eu le bac, soprano ?
Oui, l'année d'après. Quand ton père, il te dit ça. Après, tu commences un peu à revoir un peu tes priorités et tu te dis là, un peu, j'ai déconné. Voilà, j'ai retravaillé.
Et bon, donc, quand vous avez eu le bac, il a repleuré, mais de joie.
Oh, je lui ai dit, j'ai le bac. Il a dit, maintenant, c'est bien.
Ouais. On écoute tout de suite un extrait de l'album Phoenix quand même, soprano.
Avec plaisir.
Quel extrait on écoute ?
Ben on peut écouter, vu qu'on est tous de bonne humeur, on va s'écouter à la vie à l'amour.
À la vie à l'amour.
Hein ?
Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. S'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour.
On peut rien faire, le corps suit la musique.
Ah, ce morceau, il est fait pour danser, il met un peu de... Il met le petit sourire, le petit smile et on danse un peu tranquillement.
Voilà. Vous évoquez des sujets quand même assez sérieux dans votre album Soprano. Hein, le harcèlement, les violences, l'infidélité. Vous êtes sûr ça va ? Vous avez oublié la guerre, la maladie, la pauvreté, la solitude ?
Non, toujours. En fait, il faut rester positif sans jamais fermer les yeux sur ce qui se passe. Moi, je prouve que c'est important de... c'est comme quand on voit vos sketchs. Il y a toujours de l'humour, mais il y a toujours le fond, le regard un peu sur ce qui se passe dans le monde. Parce que je trouve que c'est important. En plus, je suis conscient qu'il y a, même s'il y a beaucoup d'adultes qui m'écoutent, mais il y a beaucoup de jeunes, donc leur faire un peu prendre conscience de certaines choses, c'est important.
Pensez que les rappeurs ont une responsabilité par rapport à...
Pas tous, mais il y a ceux qui sont là pour l'entertainment, c'est important aussi. Il y en a qui ont envie de ne pas écouter.
Vous dites
des
que quand on dans le milieu du rap, quand on fait du rap, on est rappeur et dès qu'on a du succès, on vous considère comme chanteur.
Ah ouais, mais ça c'est encore un autre problème. Ça c'est encore un autre problème. En plus, mon cas il est différent parce que je m'appelle Soprano à la base. Mon style c'est rappeur-chanteur depuis toujours. Donc c'est vrai que chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, les gens, on dirait que le rap, ça ne doit rester que dans une niche. Et le message, pourtant, c'est le même, même si la mélodie change, la musique évolue. Et c'est pareil pour tous les autres rappeurs aujourd'hui. C'est juste que les gens, dès qu'il y a un peu de succès, bien sûr, toujours vont dire
autre
chose. Ouais, mais moi, ça fait longtemps que c'est passé, on est passé à autre chose.
Vous dites que, par exemple, votre femme est blanche et vous dites que, au départ, quand vous lui parlez du racisme, elle dit « Oh, mais arrête, exagère, non,
oui,
non. » Et,
qu'elle a
vécu, par exemple, quand vous vouliez au départ louer un appartement, quand vous téléphoniez et que vous disiez votre vrai nom, qui est... C'est quoi votre
Mbrumbaba, Saïd Mbrumbaba.
Voilà, Saïd Mbrumbaba, l'appartement n'était jamais libre, elle appelait elle.
Ah oui, on avait l'appartement direct. Ça, c'est sûr.
Ah ouais. C'est un grand classique, ça. C'est un grand classique.
Mais le problème, c'est que c'est un grand classique, mais le problème, c'est que pour moi, c'était banal.
Oui,
ça, ça me rappelle. Malheureusement, c'était banal, c'est ça. Bah, maintenant, c'est le contraire. Ma femme me dit : je suis sûr que si tu n'étais pas Soprano, on n'aurait pas eu ça.
C'est vrai.
Donc, c'est un peu rigolo, mais bon.
Je présente Mickaël Quiroga, Soprano.
On se connaît un peu, hein, Soprano.
Oui,
bonjour.
Ça fait longtemps. Salut, Lucas.
Tu sais comment il prend sa grosse voix, là.
Ah, mais là, c'est plus Europe 1, là, c'est le terre-terre, ça n'a rien à voir. Soprano, bonjour, ravi de vous voir. Donc, votre vrai nom, vous l'avez dit, c'est Saïd Mbrumbaba.
C'est ça.
Voilà, c'est très joli comme nom, hein, c'est comorien. Alors, je le précise, parce que dit comme ça, Mbrumbaba, on pourrait croire que c'est le dernier single latino de Cyril Hanouna. En fait, alors, on vous connaît sous le nom de Soprano, alias Sopra, alias Soprababa. C'est vrai que le nom, c'est super important, hein, pour la perception que les gens de vous. C'est pour ça que Didier Morville se fait appeler Joe Star. Tu vois, c'est pour la perception. C'est pour ça que Maurice Benguigui se fait appeler Patrick Bruel.
D'accord.
Ben si, parce que vous verrez jamais une groupie en pleine nuit, tu sais, se toucher en criant ah, Maurice Benguigui. Ça marche pas. Donc, Soprano est français d'origine. Je vous laisse vous remettre. Hein. Soprano est français d'origine comorienne. Alors, je sais pas s'il se sent plus français ou comorien. Ces deux identités étant devenues relatives pour la simple raison qu'il est marseillais.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. T'inquiète, je sais. Et quand on est marseillais, avant d'être quoi que ce soit d'autre, on est marseillais. Voilà, Marseille, c'est la ville que tous les Marseillais défendent quand on l'attaque. C'est aussi la ville que tous les Marseillais critiquent quand ils y habitent.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais, Marseille, aussi connue sous le nom de la cité phocéenne, hein, un surnom qui rappelle les origines grecques de cette métropole du Sud. Origines grecques aussi qui s'expriment lorsque la foule des supporters de l'OM croise la foule des supporters du PSG et s'écrie Paris, Paris, on t'en rue ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que c'est du grec. C'est une ville qui peut surprendre. Il est parfois compliqué de faire la différence à Marseille entre deux personnes qui se parlent et deux personnes qui s'engueulent.
Parce que
une engueulade avec accent, c'est COF4. Là-bas, ça s'engueule, ça se bagarre, ça se réconcilie autour d'un pastis. Et forcément, ça se rebagarre à cause du pastis. Soprano, les gens vous adorent et c'est normal. Vous avez dit, je suis juste un mec poli, normal et qui déteste qu'on le regarde comme une star. C'est pour ça que vous avez 400 000 places pré-vendues pour la tournée. Enfin, c'est chez moi, on dit c'est un bordel, le truc. C'est pour ça que tout le monde aime Soprano, parce que Soprano, c'est le type qui a réussi, mais qui n'affiche pas, vous voyez, qui frime pas. C'est pas le genre à débouler au volant d'une Ferrari, vous voyez. De toute façon, en France, la vitesse est limitée à 80, donc ça sert à rien d'avoir une Ferrari, ça va coûter cher et tu vas pas rouler plus vite, tu vas juste rouler plus bas.
Donc, voilà.
Soprano ne frime pas, mais il aime quand même le bling-bling, parce que 4 disques d'or, un double disque d'or, 3 disques de platine, 3 triples disques de platine, 2 disques de diamant. C'est plus un chanteur, c'est un bijoutier. Lui, la nuit, il dort au coffre à la banque. En 2017, vous étiez la personnalité préférée des 7-14 ans. Vous êtes tellement gentil que Big Flo et Oli ont dû se mettre à deux pour vous détrôner en 2018. Bon, c'est vrai d'un autre côté que Big Flo et Oli, c'est des vrais gentils. Non, mais à un point, tiens, je suis sûr qu'ils préviennent les morpions avant de se gratter les... Enfin bref. J'ai adoré.
Ah, celle-là, je vais la ressortir.
C'est exprès. Tu sais quoi,
je vais leur envoyer un message après. Ah, elle est pas mal, celle-là.
Donc j'ai adoré l'album Phoenix, je suis pas le seul. À sa sortie, vous étiez deuxième derrière Johnny à la sortie de l'album. Vous seriez mort, je suis sûr que vous auriez fait premier. En tout cas, c'est un album avec du sens, du fond et de la réverbe. On va pas se mentir, il y a beaucoup de réverbe sur l'album. l'album. On dirait que vous l'avez enregistré à la gare Saint-Charles. Mais attention, attention, je maintiens, Phoenix, c'est de la bombe soprano. C'est la preuve que le hip-hop, ce n'est pas seulement ou forcément des wesh wesh la famille, bien ou bien, clippés entre deux bagarres dans un aéroport et qui ne montrent que des racailles en survêtements entourés de filles en sous-vêtements. Non, le hip-hop, c'est bien plus que ça. Alors merci Soprano de continuer à le prouver album après album. Oh,
merci beaucoup.
Léa Londo a des questions à vous poser, Soprano.
Oui, Soprano. Ouais. Les Marseillais, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes solidaires entre vous. Enfin, ça, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que j'aille voir d'autres Marseillais célèbres pour leur demander de parler de vous, Soprano. Alors, j'ai croisé Jean-Pierre Foucault. Je lui ai dit, Jean-Pierre, rassurez-nous, vous qui avez l'habitude, la première fois que vous avez organisé la venue de Soprano à Paris, il avait pris un peu la grosse tête ou pas ?
On a loué un avion privé pour lui. Il a voulu une suite au Georges V à Paris. Il avait mal aux dents, donc on l'a amené chez un dentiste pour lui faire soigner les dents. Et il est arrivé sur le plateau, très heureux.
Ça va, en toute simplicité, quoi. Tu m'étonnes rien que ça. Vous pensez...
Ah, quand même
vous...
Il fallait quand même mes dents, quand même, c'est important.
C'est important.
Vous avez des caprices, Soprano, en vrai,
non,
ou pas ?
Non, 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 non. Moi, le seul caprice, c'est que chaque fois qu'il y a un de mes potes avec moi, quand même.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Mais
c'est
pas
tout.
De...
Alors ensuite, j'ai croisé Titoff. Alors je lui ai dit, Titoff, ça vous a fait quoi quand vous avez appris que Soprano, un autre Marseillais, allait faire carrière ?
C'est vraiment pas un bon souvenir. J'étais vraiment un des premiers à faire ça.
Ouais, bah, il a eu la primeur, quoi. Il y a une solide d'arité entre artistes marseillais ou une concurrence, vous sentez quoi, vous ?
Là, avec ce que j'entends, c'est la concurrence, direct, ouais. C'est la guerre.
Alors, j'ai croisé Akhenaton aussi, je lui ai dit, t'es jaloux, Akhenaton, quand t'entends un morceau de Soprano à la radio ?
Dès que j'entends la première note, en général, j'écoute pas.
Et pareil qu'Akhenaton, il a financé votre premier album ?
Oui, c'est lui qui a sorti les deux premiers albums qu'on a fait avec mon groupe, c'est lui, en indépendant, on a travaillé avec lui, c'est mon mentor, c'est mon tout. Je l'aime beaucoup.
Alors j'ai vu aussi Jul. Alors je lui ai dit, Jul, votre musique marche très bien, mais il n'y a pas à dire, Soprano a beaucoup plus de succès auprès des filles que vous. Alors vous avez essayé de faire quelque chose pour y remédier ?
J'ai voulu accélérer les beats.
Ok, donc là...
Ah non,
évidemment, il parle de musique, je précise pour les auditeurs. Mais en vrai, Jul, ça vous déprime, avouez-le. Vous faites quoi pour vous changer les idées ?
Je descends, je sors un peu, je m'aère, tu vois, je me pose avec les frangins.
Si, si, la famille, bien sûr que je vois. Vous faites quoi, vous, Soprano, quand vous avez un coup de mou ? Si vous en avez, ouais.
Si j'ai un coup de mou, j'avoue que je prends la voiture, je roule un peu sur la corniche à Marseille.
Avec de la musique.
Voilà, de
il
la musique.
Il paraît que vous avez une voiture pourrie ?
Ouais.
Une fois au feu, il y a une famille qui vous a dit « Oh, regarde, c'est Soprano !» Et la femme a dit « Ah bah non, ça peut pas être lui, il serait pas dans une voiture aussi pourrie. »
C'est vrai, c'est totalement vrai, parce que justement, comme il disait Mika tout à l'heure, les gens, ils croient tous que j'ai une Ferrari, mais non, j'ai pas.
C'est quoi comme voiture
que... Ah, j'ai une Golf qui a des bosses partout.
Ouais.
Parce que, contrairement à ce qu'on dit, on dit souvent, les femmes détruisent des voitures, mais non, là, c'est moi. Là, elle doit être très contente si elle va entendre ça, ma femme. Bref, et c'est vrai que moi, une voiture, ça m'amène au point A, au point B, même si j'aime beaucoup les belles voitures. Mais j'ai d'autres priorités. Je préfère m'acheter du matos pour faire du son, partir faire de belles vacances. Voilà,
ou acheter une maison à vos parents.
Voilà. Acheter une maison à mes parents. Mais
Soprano, du coup, je ne serai pas l'exception qui confirme la règle. Est-ce qu'on peut dire, en parlant de foot, Soprano, que...
La funky.
C'est l'ancienne, ça.
Ça, c'est hyper vieux, Charlie et Lulu.
Oh là là, c'est l'ancienne. Ouais. C'est quand qu'ils reviennent.
Ouais.
C'est l'ancienne.
Alors, les Marseillais sont-ils toujours là dans le foot ?
Non.
Changeons de sujet.
Merci, Soprano.
Merci.
C'est un humoriste tailleur de costard qui fête ses 30 ans d'insolence avec nous ce matin. Monsieur Bernard Mabille est là.
Bonjour. J'aime bien le monsieur.
Je vous appelle.
Mais c'est bien. Il n'y a pas loin de monsieur à maître après, tu vois.
Ah, monseigneur, majesté.
Quand même, mais
vous n'êtes pas un peu prétentieux, Bernard Mabille ?
C'est terrible.
Est-ce que vous avez l'ego aussi gros que l'estomac ?
Non. ça y est, ça commence.
Ah, elle a perdu 2 kilos, elle se permet tout.
Je n'ai pas perdu 2 kilos, j'en ai perdu 4.
Ah oui, excuse-nous.
C'est pas vrai, ça ne se voit pas.
Que j'ai perdu ?
Non, mais c'est peut-être. Peut-être le pull qui est un peu ample.
Ah, vous voulez que je l'enlève, Bernard ?
Oui.
Dis donc.
Depuis le temps que vous rêvez de me voir nue.
C'est vrai,
oui.
Il se passe des trucs ici, c'est moi ou est-ce que c'est moi ou vous vous connaissez déjà?
Ouais, non, on se connaît. Non, mais moi, ce qui m'a surpris, les gens ne le savent pas, Bernard plaît aux femmes.
Non, ça, ils savent comment. Mais ça recommence.
Mais parce que c'est un homme drôle mais et brillant.
Femme qui rit, ouais. Femme qui rit, femme au lit.
Mais oui. Ah oui, ben bah oui. Oui. Et pourquoi homme qui rit, homme hors du lit?
C'est quand il tombe.
Parce que tu le pousses.
Non mais il plaît aux femmes, bah oui. Mais ah je, oui. Parce que je suis un gentil garçon. Aujourd'hui, il n'y a plus que des brutes. Moi, je suis un gentil garçon.
Arrêtez de caresser la table, Bernard, pendant que vous répondez à la question.
Non, mais il a eu. Enfin, moi, je connais un peu sa vie. Ah, il a des fois été dragué par des très belles femmes qu'on n'aurait vraiment pas pu croire.
Mais je comprends. c'est vexant ce que vous dites là. C'est super vexant. Oh
je n'ai pas fait que dans le boudin, c'est vrai.
Ah non, mais vraiment, hein, vrai. J'ai parfois été.
Remettez votre pull.
C'est pas vrai parce que j'ai des très très jolis seins, Bernard. Ah,
c'est pas la peine de. Vous avez dit quoi? C'est vous avez de très jolis seins, c'est ça?
Ouais.
C'est pas la peine de frimer, Bernard aussi.
C'est vrai. Là, je suis du sang soutien-gorge.
C'est vrai que ça tombe un peu votre poitrine, là, ma vie.
Ben, il est très content d'être venu, Bernard Mabille.
Voilà. Oui, ben, alors, oui, on est venu parler content. De votre carrière.
Je suis content de voir Anne et de vous voir aussi, mais de voir Anne, bien sûr que je suis content.
Alors, il y a eu un spectacle qui a cartonné à l'Olympia. Mmh.
Et, bah, j'ai fait qu'un soir. Mais
oui, mais c'est pas grave. Assumez votre.
Il y en a d'autres qui font plusieurs soirs aux occasions de Paris. Bah, moi, j'ai fait qu'un soir. Oui. Mais parce que j'ai eu des petites couilles, j'aurais dû prendre plusieurs dates.
Des petites couilles?
Ben oui, je me suis dit, ça va pas marcher et tout. Et finalement, ça s'est très
bien passé. Ça s'est très bien passé. Vous avez toujours un manque de confiance en vous. Bernard.
Toujours, depuis qu'on se connaît, toujours.
Un
toujours,
doute perpétuel.
Il faudrait que je m'allonge sur votre canapé, que vous.
Je crois qu'il y a trop de travail. Vous avez déjà été voir un psy, Bernard Mabille? Ah bah oui. Non. Mais là, c'est trop tard à 70 ans, non?
Oh, oui. Oh la vache! Oh la vache!
Il est jamais trop tard en plus.
Oh, et ça vient de la dame de 110 kilos. Oh la vache, mais pourquoi vous dites mon âge, mon
mais
machin?
En plus,
tout.
C'est 71, je suis gentille.
Elle est vraiment vache.
Je ne le fais pas.
Non, c'est vrai parce que c'est l'avantage d'être rond.
Non, mais attendez, je comprends pas un truc là. Vous lui en voulez, il vous doit de l'argent ou quelque chose parce que...
Mais non, qui aime bien châtie bien, il s'adore.
Bien.
Oui, bah voilà, on se connaît.
Bien. Qui aime bien châtie bien.
Alors, Bernard Mabille, parlons de vous. Oui. Donc ce spectacle.
Comme disait Béard, il y a que ça qui m'intéresse.
Bah oui,
ça,
oui. 30 ans d'insolence, création. Ans d'insolence,
oui,
vous confirmez.
Oui.
Musique de Florent Mabille, votre fils, ou la direction artistique de Pascal Mabille, un autre de vos fils. Et il y a aussi votre fille qui est attachée de presse.
Vous donnez du travail à la famille. Vous donnez côté Bouglione.
Vous donnez du travail à tous vos enfants.
Bien sûr, parce que vous savez que moi je fais partie.
Vous avez combien d'enfants, Bernard Mabille?
Six.
Parce qu'une fois on parlait, vous dites il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui en ont trop.
Oui, six enfants, mais je suis très content de les avoir.
Combien de femmes différentes?
Trois.
Ah oui, quand même, c'est ça.
De chacune, non, c'est généreux.
Mais à chaque fois que je vois Anne, il faut qu'elle parle de ça, c'est incroyable.
Mais parce que les gens ne savent pas, et après on vous voit différemment.
Mais c'est pas... Ben vous voyez comment maintenant, vous savez que j'ai
comme
trois femmes et six
enfants. Comme un père de famille.
Non, mais c'est ça.
Jusqu'à la dernière goutte, on m'appelle.
Oh non.
Oh ben vous me cherchez, hein.
Alors on va parler de votre tournée.
Le spectacle marche bien, mais moi je marche moins bien. Je suis tombé, je boitille un peu, c'est un peu chiant.
Vous avez tombé en faisant quoi?
Eh ben, je suis tombé bêtement, comme tous les poids lourds qui tombent en
avec
butant sur un... Ah non, pas la neige, non, mais en butant sur un pavé qui était mal enfoncé ou qui avait été retiré par un gilet jaune, je ne sais pas. Mais...
J'ai buté. Alors, vous parlez des gilets jaunes dans votre spectacle, Bernard Mabille?
Ben, c'est-à-dire que moi, alors je vais vous dire la vérité, je suis pro-gilet jaune, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas faire de la pub là-dessus, de la... Bien sûr, parce que
plus, vous pouvez être pro, mais vous pouvez pas mettre un gilet jaune. Il y en a pas à votre taille, si.
C'est pas vrai.
Voilà, si, voilà. Puisque je vais te dire, Pinder a fait faillite, donc j'ai repris le chapiteau. Donc ça va très bien.
Mais là, ça s'appelle un parachute doré.
On va revenir un petit peu sur votre parcours, Bernard Mabille.
Je suis comme vous, j'arrête pas finalement, on tourne sans arrêt.
C'est vrai.
Vous devenez journaliste au quotidien de Paris, vous écrivez
des
critiques.
Oui, alors je voudrais saluer Henri Chapier qui a disparu. Ça m'a fait vraiment beaucoup de
peine.
Parce
que c'est lui qui vous a fait rentrer au quotidien Absolument. De Paris, qui a été à l'origine de votre carrière en fait.
Henri m'a rencontré, j'étais représentant de commerce et grâce à lui je suis devenu journaliste. Et ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine la disparition d'Henri.
Donc après vous devenez critique au quotidien de Paris, vous critiquez Thierry Leroux qui après vous demande d'écrire pour lui. tout ça, il y a période Le Luron. Vous avez connu une époque flamboyante avec Thierry Le Luron. Vous dites, on sortait au théâtre le soir, on allait dîner à la table d'Yves Saint-Laurent, de Rudolf Nureyev, de Nicholson. C'était les années Palace, l'argent coulait à flot. Thierry changeait de voiture tous les trois jours pour passer de la Porsche à la Rolls. C'était avant la crise, c'était avant le sida, avant que les amis ne meurent.
Ah oui, oui, c'était. On sentait qu'on était en fin de quelque chose quand même. J'ai eu la chance de connaître. Quand je parle de ça, mes gosses, ils comprennent pas, mais j'ai eu la chance de connaître les années Palace, Fabrice Aymer et tout ça, la débauche totale.
Mais vous alliez au Palace pendant même.
Bien sûr, tout le temps.
Et vous dansiez ?
Ah enfin, j'ai pas toujours été un potent. Avec Thierry, je vais vous raconter un truc que je raconte jamais, mais avec Thierry, on allait même au bal des camionneurs, qui était un bal au Palace l'après-midi, le samedi après-midi. Donc, entre la matinée du gymnase et la soirée, nous allions danser au bal des camionneurs, et c'était l'avant-marais, quoi. C'était des mecs qui avaient déjà la casquette de cuir, la moustache et le maillot.
Et vous étiez habillé comment, Bernard Mabille, à l'époque?
Ah bah, j'étais habillé normal, puisque je sortais du théâtre.
Ah oui, mais pas en cuir.
On allait là.
Mais vous faisiez draguer par les hommes?
Enfin, écoute, Anne.
Quoi? Je vous demande.
Anne, j'ai tout connu, Anne.
Ah bon?
Bah oui, c'est pas un coming out, bah, bien sûr. Bah, attendez.
Ah bon? Bah non.
Bah, oui, j'ai tout connu, touché à tout et tout. Oui.
Ah ouais?
Mais c'était une époque extraordinaire.
Mais sérieusement,
vous alliez chez les gens, vous aviez des bols de produits
stupéfiants
partout et tout. Bah, bien sûr.
Vous avez fait vous avez touché à tout, toutes les expériences possibles.
Bien sûr, absolument. Voilà.
Elle peut pas en dire autant.
Ah bah non. Voilà. Alors moi qui vous voyais comme
un. Non, elle c'est l'aspirine. Hein.
Ah bah ouais. Elle en revient pas, elle reste bouche bée.
Ah oui, alors ça, je le savais pas. Hein.
Ben oui,
c'est un coming out, Bernard.
Curieux.
Mais c'est votre coming out, Bernard Mabille.
Mais non, mais il faut être curieux. Oui, je voulais le faire devant vous. Et il faut être curieux dans la vie, curieux de tout.
Bah oui. Hein. Bon, bah, tu vois ce qu'il te reste à faire, Anne.
Ça va pas empêcher. Ça va pas empêcher d'avoir 6 enfants. Et... On peut avoir des faiblesses. Un soir, après quelques whisky.
Ah oui.
Moi, c'est pour ça que je bois pas de whisky.
De jolis. Moi, j'aimais bien les travestis. Ah. Je vais pas en Bois de Boulogne, mais. Ah oui, j'étais. Mais pourquoi je vous raconte ça?
Je sais pas, mais qu'elle vous interrompt plus.
Alors, Bernard Mabille, vous dites.
Ah, mais c'est vrai.
Elle vous laisse détruire votre carrière tout seul.
Mais non, pourquoi? Il n'y a rien de.
En plus, vous êtes suivi par les caméras de BFM TV.
Elle est derrière moi, la carrière.
Bah non, elle n'est pas derrière vous. Pourquoi vous dites ça?
Vous avez donné mon âge alors que j'en fais 40, vous avez dit 71.
C'est vrai.
Oui, mais on a 71, on a toute la vie de bonsoir.
L'autre fois, j'étais dans le train, je draguais une fille qui avait votre âge, Anne, c'est-à-dire.
60,
42
ans.
42 ans, Et je lui dis, j'ai 50, et elle me dit, ça se voit pas, quoi.
Ah ouais.
Et le contrôleur est arrivé, il m'a demandé ma carte senior. Alors là, ça
vous faites du vélo, je crois, vous avez acheté un vélo électrique.
J'ai acheté un vélo électrique, oui.
Qui roule tout seul.
Ah non, il faut pédaler.
Oui, il faut pédaler un peu, quand même.
Vous, sinon, je vous aurais dit, j'ai acheté une mobylette ou un scooter. J'ai acheté un vélo électrique. Donc, je pédale. Je fais ça en Bretagne, fais 5, 6, 7, 10 kilomètres sur la plage.
Ça vous oxygène, ça vous fait du bien.
C'est magnifique. J'ai toujours rêvé de faire du cheval sur la plage. Mm-hmm. Ça a toujours été mon rêve. Quand on allait avec mes parents à Deauville, avec ma mère, et j'ai toujours rêvé de ça. Et puis alors, je me suis acheté des chevaux quand dans le Gers. Première chose que j'ai fait, j'ai acheté des chevaux. Et dont un énorme cheval de montagne, une sorte de percheron, pour monter dessus, quoi, parce qu'il fallait quand même qu'il soit un peu costaud. Et puis, je suis monté dessus avec un escabeau. Je vous jure que c'est vrai, j'ai fait 2 mètres et j'ai dit à mes enfants, descendez-moi de là, j'ai plus jamais fait de cheval.
Pourquoi ?
La peur de ma vie, c'est haut, la peur de ma vie. Donc maintenant, je fais du vélo, mais je longe la mer. Quoi. C'est très, très agréable. Quoi,
ouais, mais regardez, je vous regarde gentiment.
Ouais.
Ah non, mais ce sont des
non,
yeux.
De...
Je disais que ce sont des yeux dévorants presque.
Oh non. Ah.
Elle était en train de.
Si,
je vous assure
si.
Même si on était sur une île déserte.
Oh là là. Non, là, je vous voyais bien. Vous étiez déjà sur mon porte-bagages.
Oui, c'est vrai.
Bonjour.
C'est vous qui êtes interviewé aujourd'hui.
Oui.
Ça vous change?
Oh, oui.
Si, non, vous n'êtes pas très bavard pour un invité.
Non, attendez, pour moi, il est point d'heure. Là.
Pourquoi vous dormez le matin?
Un peu, parfois. Et je ne dors pas la nuit, il faut bien que je dorme un moment.
Parce qu'à un moment, vous animiez des émissions, Frédéric Tadé, sur Paris 1ère,
Paris dernière.
Oui, mais là, c'est fini. Vous continuez à faire la Java toutes les nuits?
Mais non, mais
à votre âge?
Mais même déjà petit, j'étais totalement.
Insomniaque?
Non, mais j'aimais bien me réveiller la nuit.
Ah bon?
Oui, pour voir ce qui se passait. Et je mettais mon réveil, je me réveillais, je jouais. Quand j'étais tout petit, je jouais avec mes soldats à 3h du matin.
Seul. Ah, vous êtes un peu particulier.
Non, c'était parce que j'avais lu que pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Wingate entraînait comme ça les commandos australiens. Et il fallait qu'il les réveille à n'importe quelle heure, il devait être prêt à se battre.
Vous entraîniez à guerrier.
Oui, mais là maintenant.
Comme il n'y avait pas de guerre, donc je jouais.
Ouais.
Et il y a les petits soldats qui lui disaient, mais laisse-nous dormir ensemble.
Frédéric Tadé, vous êtes là pour nous parler d'un projet assez exceptionnel. C'est au cœur de l'expo qui va être diffusé au cinéma. C'est-à-dire vous emmener les spectateurs visiter des expositions, événements exceptionnels en direct, en haute définition dans les salles de cinéma.
Ouais. Oui, c'est une seule séance en direct.
À quelle heure?
20h, c'est la séance de 20h. Et moi, je suis au même moment donc dans l'expo. Et je vous fais visiter cette expo d'une manière un peu idéale. C'est-à-dire que vous allez voir les tableaux comme vous ne les voyez jamais dans une expo, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde entre vous, le tableau. Et puis, il y aura autour de moi tous les meilleurs spécialistes qu'on puisse imaginer.
Pour avoir
dans une expo aussi bien des historiens d'art que des artistes ou même des invités surprises. Et je me demande ce que ça va donner.
Frédéric Tadé, vous animez aussi le dimanche sur Europe 1 de 11h à 12h30 l'émission En balade avec.
Ouais.
Vous adorez la radio, Frédéric Tadé?
J'adore la radio. J'ai attendu des années avant qu'on m'appelle. Et quand je faisais Paris dernière, on n'entendait que ma voix. Je me suis dit, c'est sûr, toutes les radios vont se précipiter pour m'engager. Et en fait, rien, personne, jusqu'à ce que Jean-Pierre Elkabbach prenne la tête d'Europe 1. Et il avait dit beaucoup de bien de moi dans des interviews. Et tout de suite, j'ai reçu des nouvelles d'Europe 1 qui m'a proposé de venir en quotidienne à l'époque.
Vous préférez la radio ou la télévision, Frédéric Tadé?
J'aime bien les deux. C'est très différent. Ça devient un peu difficile d'être intelligent à la télé. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, voilà.
Vous êtes aussi directeur de la rédaction de Lui, toujours?
Ouais.
Alors, vous sélectionnez des femmes et vous les mettez...
Ah non, ça c'est... Moi, je suis directeur de la rédaction.
Ah oui.
J'ai pas ce privilège. C'est quand on monte dans l'échelle qu'on a le droit de choisir les femmes.
Moi, on m'a jamais demandé de poser dans Lui.
Étrange. C'est bizarre, hein?
Ah oui, ça vous intéresserait pas.
Je vais en parler au directeur de la photo qui est au-dessus de moi.
Ah, il est au-dessus, c'est lui qui commande.
Ben évidemment. Alors lui, c'est normal. Bien que le directeur de la rédaction, à lui, ça a toujours été des gens très bien. Hein. C'était Jacques Lanzmann, le parolier de Jacques Dutronc, qui était un grand écrivain.
Frédéric Becbédé.
Non, la rédaction, c'est du sérieux, mais pour ce qui est de ce qui vous intéresse...
Non, j'ai pas dit que ça m'intéressait. J'ai juste dit qu'on ne m'avait jamais proposé. Après,
je peux vous demander d'écrire dedans, mais ça va vous intéresser moins.
Pourquoi pas?
Ouais, c'est sympa d'écrire dedans.
Dans Lui.
Et écrire à poil, du coup.
Vous pourrez toujours dire « je passe dans Lui ». Personne n'ira vérifier que c'est juste en écrivant.
Anne Romanoff dans Lui, je pense qu'elle préférait l'inverse.
Vous voyez qu'on table encore sur l'intelligence.
Oui, c'est vrai.
Ce sont des jeux de mots pointus, presque surréaliste.
Vous avez un éclectisme culturel, Frédéric Tadé, parce qu'en plus, dans vos études, vous avez fait 6 premières années en
ouais,
fac.
Ça aide pour l'éclectisme.
ça a dû catastropher vos parents, ça, quand même.
Pas du tout. C'est d'ailleurs extraordinaire. Souvent, mes copains me disaient, mais vous n'avez jamais eu peur? Ils demandaient à mes parents, et mes parents disaient, non, on savait bien qu'ils sont...
6 premières années dans des domaines différents.
Oui, mais franchement, j'ai jamais été passé l'examen.
Hein. Ah oui.
Ah non, c'était juste pour avoir la sécurité sociale.
Et aller au resto U, en fait.
Ah non, surtout pas le resto U.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Déjà snob.
Non, c'est pas ça. Mais...
C'est si, un peu, déjà.
Non, mais personne n'aime le resto.
Moi aussi, j'ai fait 6 premières années, mais c'était en 6e.
Je présente Jérémy Lorca.
Oui. Ah bah là, je me sens déjà moins intelligent à côté de Frédéric Tadé d'un coup.
Vous êtes gentil.
Bah, tu te sens jamais très intelligent. Bah, non,
personne m'avait dit ça. Mais pourtant, j'étais venu avec une bonne nouvelle. Anne, Frédéric, les amis, j'ai eu la réponse ce matin, donc je suis très content de vous l'annoncer. J'ai eu mon permis de conduire. C'est une vraie nouvelle, c'est vrai. Hein.
C'est une bonne nouvelle pour toi, mais pour nous, je sais pas.
Voilà, pour être honnête, je l'ai eu eu sur un malentendu. D'ailleurs, je remercie du fond du cœur les gilets jaunes. Ah bah, sur 25 minutes d'examen, je suis resté 15 minutes au point mort sur le périph. Forcément, ça aide un peu. Merci les gars. Et pourtant, ça avait mal commencé. Il pleuvait des cordes. Donc, en attendant pour mon tour pour m'abriter, je suis rentré dans un marchand de journaux. Et comme je savais qu'on recevait Frédéric Taddeï, je suis allé acheter votre magazine, lui. Et quand le libraire me l'a donné, que j'ai vu cette fille en petite culotte sur la couverture et toute cette fille nue à l'intérieur, je me suis dit, ah tiens, c'est plus un magazine pour Ben H que pour moi. À peine le temps de le lire qu'on m'appelle. Et là, je pense à vous, Frédéric. Comme votre émission s'appelle En balade avec, je me dis, allez, sois cool, emmène l'examinateur en balade, tu le promènes dans la ville, ça va bien se passer. Du coup, je suis rentré détendu dans la voiture. Ah bah, tellement détendu que j'avais oublié que j'avais le magazine dans les mains et la fille nue. Il me regarde et regarde la fille nue, gêné. Je lui dis, je suis désolé, c'est pour mon travail. Il me dit, mais vous travaillez dans quoi? Je voulais lui répondre, bah, je fais des blagues, mais ça faisait pas sérieux. Sauf qu'il me demande pourquoi j'ai un pseudo sur ma carte d'identité. Je lui dis, bah, je suis humoriste. Et d'habitude, ça rend les gens assez curieux. Et ben là, rien du tout. Hein. Il est resté de marbre, donc je joue ma carte joker, à savoir Anne Roumanoff. Parce que quand je sens que quelqu'un ne me prend pas trop au sérieux, je glisse et j'ai la chance de travailler avec Anne Roumanoff sur Europe 1. Et je te jure, Anne, comme les gens t'adorent quand je dis ça, par ricochet, ils sont sympas avec moi. Et ben là, le mec m'a répondu, désolé, j'écoute RTL. Je me dis, ok, le permis, c'est mort. Je démarre la voiture, je le passais en automatique. On ne peut pas caler avec une automatique. J'ai calé deux fois, les amis. La voiture ne démarrait pas. Et là, il me sort cette phrase. Ça serait peut-être plus pratique d'enlever le frein à main. La honte, je commence à rouler. Il me dit c'est limité à 50. Pourquoi vous êtes à 12 km/h? Mais parce que j'ai peur du con. Je lui réponds à cause de la pluie. Il me fait rentrer sur le périph. Et là, je m'étais fait un moyen mémotechnique que je donne aux apprentis conducteurs qui nous écoutent. Pour s'insérer sur une voie, on doit vérifier le rétro intérieur puis extérieur. On met le clignotant, on fait l'angle mort et on s'insère. Mais comme j'arrivais pas à retenir l'ordre, je me suis dit ok, rétro intérieur, je me recoiffe. Rétro extérieur, quelqu'un me drague. Clignotant, approche-toi pour voir. Angle mort, mais t'es moche, je me casse. Ah bah, je me suis pas cassé l'ongle. On était bloqué par les gilets jaunes pendant 15 minutes. On sort du périph', il me fait faire un créneau. Là, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je m'y reprends à trois fois et je lui dis, je suis désolé, d'habitude, je suis un tueur pour les créneaux. Il me dit, ah ouais, vous tuez qui? J'essaye une quatrième fois et là, il me dit, mais stop, vous voyez pas qu'il y a une bite sur le trottoir? Du coup, je tente, bah non, et pourtant, d'habitude, je les repère. Ça l'a pas fait rire du tout. Alors, je sais pas si c'est grâce à toi, Anne, si c'est grâce à vous, Frédéric, à la fille nue en couverture de lui, aux gilets jaunes, mais sur un malentendu, j'ai eu mon permis de conduire. Alors, champagne pour tout le monde.
Bonsoir.